Lorsqu'on fait face à une séparation et qu'on a des enfants, on se demande souvent comment le temps qu'aura chaque parent avec les enfants sera divisé. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la garde des enfants avec Maître Jade Barrière, avocate de chez Info Justice. Bonjour Jade Barrière.
Bonjour, ça va bien?
Oui, et vous?
Oui, ça va bien, merci.
On va commencer par qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de base après une séparation. À qui appartient le droit de garde des enfants après cette séparation-là?
Donc, en fait, il existe un principe général selon lequel les parents exercent ce qu'on appelle l'autorité parentale sur leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils exercent l'ensemble des droits et les obligations qu'un parent a envers son enfant. Donc, l'autorité parentale inclut le devoir de garde envers l'enfant, mais aussi le devoir de l'éduquer, de subvenir à ses besoins et de prendre toutes les décisions qui sont nécessaires à son bien-être. Donc, par conséquent, lors d'une séparation, les parents ont tous les deux le droit de garde envers leur enfant et la loi n'accorde pas à prime abord de droit de garde à une partie ou à une autre. Ceci étant dit, comme les parents ne sont plus vie commune, il faut nécessairement déterminer si on veut opter pour une garde partagée où l'enfant passe de 40 à 60 % du temps parental avec chaque parent, ou encore pour une garde exclusive où l'enfant va passer plus de 60 % de l'année chez un de ses deux parents. Puis la garde exclusive peut alors inclure ou non des droits d'accès avec d'autres parents selon les cas.
Et c'est qui décide du droit de garde à la suite d'une séparation?
Donc, en fait, ça dépend des cas. Donc, lorsque les parents sont en mesure de s'entendre sur les modalités de leur séparation, ils peuvent eux-mêmes déterminer s'ils veulent faire une garde partagée des enfants ou encore accorder la garde exclusive à un parent en particulier avec ou sans droit d'accès pour l'autre. Donc, ils sont libres de s'entendre sur la façon de procéder et sur la formule à utiliser, que cela concerne la façon de s'échanger les enfants, les jours de transition, les vacances, les voyages, les fêtes, etc. Donc, pour faciliter le fait d'arriver à un commun accord, les parents peuvent également avoir recours à la médiation, qui va permettre alors de faciliter la communication entre eux. Donc, si en fait les parents ne sont pas en mesure de s'entendre, il faut à ce moment-là qu'ils se tournent vers le tribunal qui va avoir la tâche de déterminer les modalités de la garde.
Et c'est quoi les critères qui sont pris en compte pour le tribunal pour trancher sur la garde?
Donc, le critère qui est le plus important que le tribunal doit considérer, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent alors aider le juge à se faire une tête sur la meilleure façon de départager la garde, dont l'opinion de l'enfant. Donc, lorsque le juge prend en compte l'opinion de l'enfant, il y a différents facteurs qui vont peser dans la balance, comme la maturité de l'enfant, mais également son âge. Donc, en effet, l'importance à accorder à l'opinion de l'enfant va varier selon son âge. Donc, par exemple, l'opinion d'un enfant qui est âgé de moins de 8 ans va être prise en considération, mais va avoir peu de poids. Puis la décision va vraiment dépendre presque entièrement des parents. Si l'enfant est âgé de 8 à 11 ans, son opinion est alors fortement considérée. Et si l'enfant a 12 ans et plus, à ce moment-là, son opinion, elle est déterminante. Par contre, l'opinion de l'enfant, même de plus de 12 ans, peut être écartée si, par exemple, il y a un parent qui manipule ou va tenter d'influencer l'opinion de son enfant sur la garde en lui offrant, par exemple, des cadeaux, des sorties fréquentes, ou si encore s'il fait des sous-entendus négatifs qui sont répétés à l'égard de l'autre parent, qu'on appelle aussi le syndrome d'aliénation parentale.
Est-ce que le juge peut considérer d'autres facteurs que l'opinion de l'enfant?
Absolument. Donc, en tentant d'évaluer ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant, le juge peut notamment évaluer des facteurs comme les besoins de l'enfant et la capacité de chacun des parents à répondre à ses besoins, qu'ils soient alimentaires, sociaux, au niveau du logement ou autres. Également, la relation entre l'enfant et chacun de ses parents. La stabilité de l'enfant. Donc, par exemple, s'il y a un parent qui change d'adresse fréquemment, par exemple, c'est quelque chose qui va être à considérer. La santé physique ou mentale du parent qui souhaite avoir la garde. La disponibilité de chacun des parents. Donc, s'il y a un parent qui travaille à temps plein ou un qui travaille à l'étranger. On peut penser, par exemple, à un camionneur, notamment, qui aura beaucoup besoin de se déplacer. Ou encore les habitudes de vie des parents. Donc, s'il y a de l'alcool, s'il y a de consommation de drogue, la situation des frères et sœurs de l'enfant, parce qu'on cherche à éviter de les séparer. Un autre facteur serait la volonté pour un parent, que l'enfant maintienne une relation avec l'autre parent, ou encore des situations de violence familiale.
Mm-hmm. Un peu plus tôt, tu mentionnais le fait qu'un parent pouvait exercer des droits d'accès lorsque l'autre parent avait une garde exclusive. C'est quoi la différence entre garde d'enfant et droit d'accès?
Donc, en fait, il s'agit d'expressions qui sont moins privilégiées par les tribunaux depuis 2021, mais qui sont encore utilisées de façon courante. Donc, lorsqu'on parle d'un parent qui a la garde de l'enfant, on va faire normalement référence à un parent qui a son enfant là, 40 % du temps et plus. Donc, dans les cas d'une garde exclusive, quand un seul parent a l'enfant pour plus de 60 % du temps, on va parler du droit d'accès lorsqu'on fait référence au temps qu'a le parent qui n'a pas la garde avec son enfant. Donc, les droits d'accès sont aussi connus comme des droits de visite ou des droits de sortie. Puis, on peut parler de droit d'accès lorsqu'un enfant, en fait, va habiter chez un de ses parents, mais va visiter son autre parent, par exemple, une fin de semaine sur deux. Donc, autrement dit, si un parent a son enfant moins de 40 % du temps, on va qualifier son temps avec son enfant de droit d'accès et non de garde de l'enfant. Mais ceci étant dit, depuis le 1er mars 2021, la loi sur le divorce a remplacé les termes garde des enfants et droit d'accès par temps parental, alors la distinction, elle est moins présente.
Est-ce qu'un parent peut s'attribuer la garde de l'enfant sans l'accord de l'autre parent?
Non, puis en fait, s'attribuer la garde des enfants sans l'accord de l'autre parent peut même équivaloir à un enlèvement d'enfant. Donc, ainsi, un parent peut porter plainte pour enlèvement si, sans son accord, l'autre parent va s'attribuer la garde exclusive de l'enfant, alors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la garde ou encore a pris une autre décision dans son jugement de garde, ou même s'il tente de priver l'autre parent là, de ses droits de garde ou des droits de visite. Donc, les démarches vont varier selon la situation. Là. Donc, si on fait face à un enlèvement local, provincial, interprovincial ou international, mais dans tous les cas, il faut porter plainte auprès du poste de police.
OK. Puis est-ce que l'enfant a le droit d'avoir contact avec le parent qui n'a pas la garde?
Absolument. Donc, les enfants ont le droit d'avoir le plus de contact possible avec le parent qui n'a pas la garde, en autant que ce soit dans le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, c'est pas parce qu'un parent n'a pas la garde de son enfant qu'il n'est plus un parent et n'a plus le droit d'avoir des contacts avec son enfant. Puis, il faut rappeler que bien souvent, si la garde exclusive, elle est accordée à un parent plutôt qu'à un autre, c'est parfois parce que l'autre parent habite trop loin de l'école de l'enfant ou n'a pas un logement qui est propice à accueillir un enfant ou encore va voyager beaucoup pour le travail. Donc, le parent qui n'a pas la garde peut avoir des contacts téléphoniques avec son enfant, des visites de quelques heures, des sorties qui vont inclure un coucher ou non, des périodes de vacances, puis bien plus encore.
Est-ce que les grands-parents ont des droits d'accès?
Il arrive que les grands-parents doivent se tourner vers les tribunaux pour demander des droits d'accès à leurs petits-enfants dans certaines situations de séparation ou de conflits importants avec les parents. Donc, cela dit, les grands-parents peuvent entretenir des relations personnelles avec les petits-enfants dans la mesure où c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, un tribunal pourrait décider de limiter ou même d'empêcher des contacts entre les grands-parents et les enfants parce que les contacts ont un effet négatif sur le bien-être de l'enfant, par exemple. Il faut aussi dire que l'opinion de l'enfant va compter, que l'âge de l'enfant aura également un impact sur le niveau de considération que le tribunal va accorder à l'opinion de l'enfant sur la question. Donc, en effet, s'il y a un enfant qui a 14 ans ou plus, le tribunal va devoir respecter sa volonté car l'enfant a le droit de choisir s'il veut préserver des liens avec ses grands-parents. Donc, même si un jugement accorde des droits de contact, un enfant de cet âge-là va pouvoir décider de ne plus avoir de contact avec ses grands-parents. Donc, dans les cas où les enfants ont en fait moins de 14 ans, la Cour va tenir compte de son opinion, mais l'opinion devra être évaluée selon l'âge et le niveau de maturité de l'enfant. Puis à noter par contre que dès que l'enfant a 10 ans, les grands-parents doivent saisir les tribunaux sur la question et obtenir un jugement qui va accorder des accès si l'enfant refuse de les voir.
Sur la question des droits d'accès des grands-parents, est-ce que c'est toujours nécessaire de se tourner vers les tribunaux?
Donc, en fait, dès qu'un enfant atteint l'âge de 10 ans, il n'est pas possible de forcer ce dernier à avoir des contacts avec ses grands-parents s'il refuse. Donc, pour forcer des droits d'accès avec les grands-parents, il va vraiment falloir se tourner vers les tribunaux. La médiation peut constituer une option pour aider à en venir à une entente, puis même tenter de mettre sur pied un plan qui va convenir à tous. Mais il est possible que le tribunal ait quand même à prendre la décision finale si les enfants ont entre 10 et 13 ans. Puis, comme je le mentionnais tantôt, dès qu'un enfant a 14 ans, ils ont le dernier mot, puis même le tribunal ne peut pas aller à l'encontre de leur volonté.
Qu'en est-il de la relation entre les enfants et les beaux-parents?
Donc, depuis le 8 juin 2022, l'ex-conjoint d'un parent peut saisir la Cour pour demander des droits d'accès à un enfant si le parent refuse des contacts entre ces derniers. Donc, l'ex-conjoint, qui était alors le beau-parent de l'enfant avant la séparation, devra démontrer au tribunal être une figure significative dans la vie de l'enfant et qu'elle maintient la relation avec l'enfant et dans le meilleur intérêt de ce dernier. Donc, c'est pas quelque chose qui est automatique. Il y a différents critères qui seront considérés par le tribunal, incluant la durée de la relation, l'âge de l'enfant, les qualités des liens entre l'enfant et l'ex-conjoint, également le comportement de l'ex-conjoint. Puis pour ce qui est de l'âge de l'enfant, le principe est le même qu'avec les grands-parents, c'est-à-dire que l'opinion de l'enfant de 10 à 13 ans va être considérée par la Cour, tandis que l'opinion d'un enfant de 14 ans et plus sera définitive.
Est-ce qu'un parent ayant la garde peut déménager sans aviser l'autre parent?
Non. Puis avant de déménager, un parent a l'obligation d'envoyer un avis écrit à l'autre parent qui a lui aussi du temps parental avec l'enfant. Donc, l'avis va devoir mentionner la date de déménagement puis également la nouvelle adresse. Puis dans le cas d'un déménagement important, c'est-à-dire qui risque d'empêcher l'autre parent de continuer à voir son enfant, le parent qui déménage doit absolument transmettre un formulaire d'avis de déménagement important, puis ça au moins 60 jours avant le déménagement. Donc, si l'autre parent veut s'opposer au déménagement, il va avoir 30 jours pour le faire en répondant avec le formulaire avis d'opposition à un déménagement important. Puis après avoir reçu l'opposition, si l'autre parent veut toujours déménager, il doit obligatoirement obtenir l'autorisation du tribunal et ce, avant le déménagement. Donc, le tribunal va prendre en considération plusieurs critères pour déterminer s'il va autoriser ou non le déménagement important, comme la raison du déménagement et les conséquences du déménagement sur l'enfant. Puis si le tribunal autorise le déménagement important, il peut indiquer aux parents comment répartir les frais qui devront être engagés pour permettre aux parents qui ne déménagent pas d'exercer son temps parental avec l'enfant. À noter par contre que pour cette procédure-là de déménagement important, elle est applicable seulement aux parents divorcés.
Si nos auditeurs ont des questions ou s'ils veulent en savoir plus sur le sujet, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Où est-ce qu'on peut contacter?
Donc, comme toujours, on peut nous contacter chez InfoJustice pour toute question ou encore pour avoir accès à du soutien juridique. Puis on est joignable par téléphone au 1-844-606-4600 qui est sans frais ou encore au 819-600-4600. Et je rappelle que le service, il est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Maître Jade Barrière d'InfoJustice Outaouais, merci beaucoup.
Merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine.